Vous pouvez trouver dans vos Bibles, nous irons tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1. Nous sommes à la fin, ce sera le dernier message dans ce série sur les cinq solas de la réforme protestante. Ce ne sont pas cinq phrases qu'ont utilisées les réformateurs eux-mêmes, c'est plus tard les historiens chrétiens qui ont tenté de résumer un peu le réveil qui était ce qu'on appelle la réforme, l'ont résumé dans ces cinq phrases qui donnent en latin l'idée de la Bible seule. Le premier, la grâce seule, la foi seule, Christ seul et à Dieu seul la gloire. Et aujourd'hui, nous allons considérer donc ce dernier, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Et c'était l'enjeu vraiment de ce qui s'est passé dans ce réveil que Dieu a porté à son Église. Le salut donc à la gloire de Dieu seul. Et c'est intéressant que la toute première épître que Paul a écrite était aux Églises, vous savez laquelle c'est ? C'est celle qu'il a écrite aux églises de la Galatie, donc on l'appelle l'épître aux Galates. Et c'est une région qui fait partie de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et elle a vraisemblablement été écrite vers l'année 48. Donc avant qu'il y ait eu ce conseil de Jérusalem qui est décrit en Actes chapitre 15, même avant cela. C'est-à-dire, elle a été écrite seulement 12 à 18 mois après que Paul et Barnabas ont fondé ces églises. Donc, nous sommes à peine un an, peut-être un an et demi, après la fondation de ces églises. Et l'apôtre s'étonne et leur écrit ceci. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ » pour passer à un autre évangile. Et il va dire plus tard, c'est vraiment pas, même pas un évangile, hein, parce qu'il y a une seule bonne nouvelle. Mais nous voyons dans cet exemple historique que la nature humaine n'est pas seulement de résister à l'évangile, nous voyons ça tous les jours, ou de rejeter carrément l'évangile, mais la nature humaine nous pousse même à nous détourner facilement de l'Évangile après l'avoir connu. Et l'Épître aux Galates est une lettre qui appelle les Églises à un réveil, un retour vers l'Évangile de Jésus-Christ, un retour vers ce qu'elle avait perdu. Et donc nous voyons que l'Église de Jésus-Christ, peu de temps après avoir été formée, avait besoin d'être réformé. Et l'histoire de l'Église, après ce temps jusqu'à nos jours, est vraiment une histoire de formation et de réformation. Et ce qu'on appelle la réforme protestante du XVIe siècle n'était ni la première ni la dernière réforme nécessaire dans l'Église. Nous pouvons même dire qu'à cause de la situation du péché dans le monde et de nos propres cœurs, que l'Église a toujours besoin de réforme. Elle a toujours besoin d'être en train de se réformer selon la parole de Dieu, à revenir à ce qu'elle peut si facilement perdre. Et ce qui est significatif concernant la réforme protestante en Europe, en France, au XVIe siècle, est qu'elle explose dans une Europe qui est à la fois presque universellement chrétien en nom, mais incroyablement enténébré. C'est-à-dire, ceux qui viennent d'ailleurs ne le savent peut-être pas, mais à cette époque, presque tous les Français se disaient chrétiens. mais presque personne ne connaissait l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut savoir que presque chaque erreur, on peut même dire toute erreur, je crois, n'est qu'une vérité tordue ou une vérité déformée. Parce que Satan, il ne peut rien créer. C'est Dieu qui crée et Dieu crée tout bon. Donc Satan, il prend ce que Dieu a créé, il la torde, il la déforme pour créer une erreur. Or, on peut tordre ou déformer la vérité de plusieurs façons. On peut la tordre en redéfinissant les termes. Dire ça, ça veut dire autre chose. Ou en soustrayant une partie de la vérité. Ou en faisant un échange, c'est-à-dire en insérant une erreur à la place de la vérité. Ou une autre façon de tordre la vérité, c'est en ajoutant une erreur à la vérité. Je crois que c'est surtout ce qui existait au temps de la Réforme, ce qui se passait dans le romanisme, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. C'était qu'ils n'étaient pas dans la négation, ils n'étaient pas là en train de nier des vérités de la Bible, mais ils avaient tellement ajouté à ces vérités que les vérités elles-mêmes étaient éclipsées et tordues et on ne les voyait même pas. Ces vérités étaient devenues tellement déformées au fil de temps qu'une révolution théologique était nécessaire. Mais comme vous voyez dans cette lettre aux Galates, déformer l'Évangile n'était pas une invention nouvelle de la part de Rome. Mais l'Église de Rome prêchait un Évangile qui n'était pas un vrai Évangile. Et c'est pour cela qu'au cœur vraiment de la Réforme se trouvaient ces cinq vérités fondamentale qui avait tout à voir avec cette question de comment être juste avec Dieu. Et donc, il y avait l'Écriture, qui est l'autorité sur le salut. C'est-à-dire, ça répondait à la question, qui décide? C'est le pape? C'est mon cœur? C'est les conseils? Ou c'est la parole de Dieu. Donc, ils ont commencé avec l'Écriture, l'autorité sur le salut, et puis la foi, le moyen du salut, et puis la grâce, la base du salut, et Christ, l'agent ou le médiateur du salut. Ces trois questions-là répondaient à la question, comment obtenir ce salut? Comment puis-je, moi, en tant que pécheur, recevoir le salut de Dieu? Eh bien, par la foi seule, la grâce seule et en Christ seul, était la réponse. Et puis cinquièmement, la gloire de Dieu, c'était la motivation qui anime, c'est-à-dire qui incite au mouvement, qui anime le salut. Et ça répondait à la question, pourquoi? Pourquoi tout cela? L'Écriture, si on prend ces cinq, l'Écriture avait été obscurcie par la tradition. La foi a été éclipsée par les œuvres. La grâce a été voilée par l'exigence du mérite humain et des œuvres humaines. Christ a été remplacé par l'Église de Rome en tant que le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la gloire de Dieu a été occultée ou masquée par la gloire humaine de ce que je peux faire pour accomplir des œuvres devant Dieu. Et je vais faire encore ce que j'ai fait la semaine passée à Sarcelles et comparer le salut à ce problème mathématique. Alors moi, je suis très fort en maths tant qu'on reste sous le numéro 10 parce que Dieu m'a donné 10 doigts et puis une calculatrice. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que 1 plus 2 égale 3. Alors, si je dis 1 plus 2 égale 0, j'ai tort, n'est-ce pas? Il y a un problème. Il y a un problème avec ce problème mathématique. Et c'est la même chose dans le domaine du salut. Voici ce qu'enseigne la Bible. La grâce plus le salut égale les œuvres. Alors, si je dis la grâce plus le salut égale zéro œuvre, aucune œuvre, j'ai tort. C'est-à-dire, si de l'autre côté de ce signe pour égal, il n'y a pas d'œuvre, il y a un problème avec la foi et la grâce et le salut. Et même, c'est l'épître de Jacques qui dit que si de l'autre côté vous n'avez pas d'œuvre, votre foi que vous supposez être une vraie foi, en fait, est une foi morte. Il dit, encore pire, ce n'est pas mieux qu'une foi démoniaque. Donc, dans l'équation, il faut avoir les œuvres. Mais qu'est-ce qui se passe quand je prends tous ces éléments, la grâce, le salut, les œuvres, et que je les transpose? Donc, au lieu de faire 1 plus 2 égale 3, j'ai 1 plus 3 égale 2. Est-ce que j'ai raison de dire 1 plus 3 égale 2? Vous n'êtes vraiment pas fort en maths, là. On va faire des cours de maths, je crois, avec vous. J'ai les mêmes éléments. J'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3. Mais le fait de les inverser rend tout faux. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et voici ce qu'enseignait l'Église de Rome. Ils avaient les mêmes éléments, mais ils les avaient renversés. Et donc, ils disaient la grâce plus les œuvres égale le salut. Vous voyez, exactement les mêmes éléments. Mais ils avaient changé de position dans cette équation et tout devient faux. Mais ma question n'est pas de parler de cela, pourquoi, c'est clair dans la Bible, mais c'est pourquoi est-ce que cet ordre est important? Pourquoi la grâce plus le salut égale les œuvres? Pourquoi on ne peut pas les changer pour dire la grâce plus les œuvres égale le salut? Alors, une réponse possible, si je vous dis pourquoi, est de dire que c'est impossible. C'est-à-dire, il y a une incapacité humaine de produire des œuvres qui vont mener au salut. Ça, c'est vrai, la Bible en parle. Mais moi, je veux vous suggérer qu'il y a une réponse encore plus importante que cela. La première raison pour laquelle le salut n'est pas par les œuvres n'est pas parce que l'homme ne peut pas avoir d'œuvres, et il ne peut pas. Mais réfléchissez à ce problème de mathématiques. 2 fois 2 égale 4. Okay. Vous vous rappelez bien sûr les noms pour ces différents. Si j'ai bien raison, on appelle ça des facteurs et après on l'appelle le produit. Alors, les deux facteurs d'un côté, de l'autre côté le produit. Alors, vous comprenez que ça change tout si le salut est un des facteurs de mon salut ou si le salut est le produit de mon salut. Vous voyez la différence? Si mes œuvres, j'ai mal dit, je recommence. Ça change tout si mes œuvres sont le facteur de mon salut ou si mes œuvres sont le produit de mon salut. Et pourquoi est-ce que ça change tout? Parce que c'est une question de gloire. C'est une question de gloire. Si mes œuvres sont un des facteurs du salut, je mérite une partie, au moins, de la gloire pour le salut. Même si c'est Dieu qui fait presque tout et moi un tout petit peu, c'est quand même mes œuvres qui sont facteurs dans la production du salut. Mais si mes œuvres ne sont que le produit d'un salut que Dieu m'a accordé, eh bien lui seul reçoit la gloire. Et c'est cela que je veux voir ensemble. Et d'abord, juste comme introduction, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Nous sommes d'accord en tant que chrétiens que le monde, la création existe pour la gloire de Dieu. Le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire la création révèle la gloire de Dieu, elle a été créée pour sa gloire, pour parler, révéler, démontrer sa gloire. Calvin qui a dit que ce monde a été conçu comme un spectacle de la gloire de Dieu. En lui, c'est-à-dire dans le monde, il manifeste les perfections de sa nature invisible. Vous voulez voir un spectacle? Dieu dit, j'ai créé un spectacle pour vous. C'est le monde. Regardez en haut, regardez en bas, à droite, à gauche, ce qui est petit, ce qui est gros. Tout ça, j'ai créé comme un spectacle de quoi? De la gloire de Dieu. Effectivement, on peut voir la gloire de Dieu dans sa création. Mais ce que nous allons surtout voir ce matin, c'est que la nouvelle création existe pour la gloire de Dieu. Alors, quand je dis la nouvelle création, je ne parle pas du nouveau monde qui viendra. Je pense surtout à notre salut, notre rédemption. Si vous préférez, vous pouvez mettre ce mot. Notre salut, notre rédemption. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créations. Et cette nouvelle création, ce salut, cette rédemption existe pour la gloire de Dieu. Christ a même dit lui-même que tout ce qu'il fait, il l'a fait pour la gloire du Père. Alors, avant de regarder ces versets, je veux préciser quelque chose. Nous croyons dans la Trinité. Et à cause de cela, nous savons que la gloire de l'un est la gloire de l'autre. Donc, parler de la gloire de Dieu le Père ne s'agit pas d'un amoindrissement de la gloire du Fils. Mais la gloire du Père, dans ce qu'il fait à travers son Fils, est fréquemment citée dans la Bible. Peut-être un verset que vous connaissez, Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a, c'est Christ ici, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? À la gloire de Dieu le Père. Alors suivez-moi ici, ce qui est différent entre Christ et nous, c'est que Dieu le Père est glorifié en glorifiant son Fils. Vous voyez, quand tous genoux fléchissent devant Christ, le Père est glorifié. On ne peut pas dire ça de nous. C'est-à-dire le plus qu'il glorifie son Fils Jésus, le plus il est lui-même glorifié. Jean 17, la prière de Jésus nous aide aussi avec cela. C'est Jésus qui prie et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, mais il y a un but derrière. Jésus lui-même ne cherche pas seulement sa propre gloire. Il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils, quoi, te glorifie. Donc la glorification du Fils apporte la glorification du Père. La gloire du Père et du Fils sont donc intimement liées. La gloire du Saint-Esprit et de glorifier le Père et le Fils. Donc il ne faut pas dire, bon, il amoindrit la gloire de Christ ou la gloire de l'Esprit en parlant de la gloire du Père. Mais ceci dit, je veux que vous voyez comment la gloire du Père est soulignée. Nous allons maintenant juste lire plusieurs passages ensemble. D'accord? Donc j'espère que vous avez vos Bibles. Éphésiens chapitre 1. Et je commence avec cet hymne qui commence au verset 3, c'est une seule phrase, depuis le verset 3 jusqu'au verset 14 dans le grec. Et je veux souligner toutes les mentions du Père ici. Il y a des passages qui sont christocentriques. Mais voici un passage qui est vraiment pas trop centrique, c'est-à-dire centré sur Dieu le Père. Il dit Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu, c'est-à-dire en Christ, Dieu, le Père, c'est-à-dire, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça, c'est le Père. Il, le Père, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Le Père, d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, le Père, dont il, le Père, nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, c'est Christ ici, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa, c'est le Père ici, sa grâce que Dieu, le Père, a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Il, le Père, nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le Père, selon le bienveillant dessein qu'il, le Père, avait formé en lui-même, Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses. C'est un verbe qui parle du Père. C'est le Père qui fait cela, qui réunit toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, étant été prédestinés. Nous avons déjà vu que c'est l'œuvre du Père de faire cela. Suivant le plan de celui, le Père, qui opère toutes choses d'après le conseil de sa, le Père, volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, le Père. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, le Père, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu le Père s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc c'est un hymne trinitaire, nous avons vu ça avant. Mais c'est un hymne qui est quand même focalisé sur Dieu le Père et sa gloire. J'ai un ami avec qui je travaillais à UPS pendant 4 ans. Et il était un doctorat en théologie. C'est bien quand un collègue connaît bien sa Bible et aime bien le Seigneur. Et il a récemment prêché sur ces choses et il a mentionné que selon lui, il y a plus de 50 références à Dieu le Père en Éphésiens par nom ou par pronom. Et il a compté plus de 80 références à Dieu le Père si on inclut les verbes qui lui sont attribués. Et donc nous voyons souligner ici pour nos yeux le rôle de Dieu le Père dans l'initiation du salut, dans ces verbes qui sont attribués spécifiquement au Père. Et puis par conséquent, ces références à sa volonté, son désir, ses conseils, etc. Nous voyons cette initiation souveraine de Dieu le Père dans notre rédemption. Vous voyez ça, verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Encore verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Verset 6 parle de sa grâce. Verset 7 de sa grâce. Verset 9 de sa volonté. Verset 9 encore du bienveillant dessein qu'il avait formé. Verset 11, son plan, sa volonté. C'est donc Dieu le Père qui initie tout, qui opère tout, qui agit dans tout. La Bible nous dit qu'il a été même en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et cette lettre appelle notre attention sur l'action de Dieu le Père dans notre salut. Il dit que c'est l'amour de Dieu le Père. C'est la volonté du Père. C'est l'initiation, c'est l'activité du Père. Et tout cela pour un but précis. Lequel ? Eh bien, comment termine chaque strophe ? Vous les avez peut-être déjà soulignés car nous l'avons vu auparavant. Il y a 3 strophes et le premier refrain se trouve au verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce. La 2e strophe se termine au verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et puis, regardez la fin de cet hymne, les 4 derniers mots du verset 14, pour célébrer sa gloire. Vous voyez que selon la Bible, tout cela est fait. Dieu fait tout cela pour célébrer sa gloire. Ça, c'est la motivation derrière notre salut. Mais continuons simplement la lecture de cette lettre. Regardez Éphésiens 1, versets 15 à 23. C'est une prière à Dieu le Père. C'est une prière que Dieu le Père nous aide à comprendre notre position privilégiée à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il dit, c'est pour cela, Éphésiens 1, 15, « Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qui ça? Bon, c'est le Père de gloire, vous donne, donc que le Père vous donne, c'est sa prière, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il, verset 18, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? Sa puissance! La puissance de qui? Ben, sa puissance se manifestant avec efficacité par le vertu de sa force. Vous dites ça, on parle de la force de qui? Bon, regardez le verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc c'est l'œuvre du Père, n'est-ce pas? C'est la force du Père ici qui est soulignée. Et en le faisant asseoir encore l'œuvre du Père à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il, le Père, a tout mis sous ses pieds, le Fils, et il, le Père, l'a donné, c'est-à-dire il a donné Christ pour chef suprême à l'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Christ, oui, mais l'Église est la plénitude du Père, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est le Père. Alors continuons la lecture, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, verset 4, mais Dieu le Père revient sur la scène ici. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, écoutez ceci, dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Ça, c'est l'œuvre du Père. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous avons déjà vu sa grâce, sa grâce, sa grâce. Donc c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Verset 6. Il, l'œuvre du Père, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est l'œuvre du Père en Jésus-Christ. Mais afin de montrer, notez ceci, c'est l'œuvre du Père. Il veut montrer quelque chose, verset 7, dans les siècles à venir. Qu'est-ce qu'il veut montrer? L'infini richesse de quoi? De sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en nous donnant Jésus-Christ, Dieu le Père déverse sur nous son amour et sa grâce. Il aurait pu le garder pour lui-même. Car, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de Dieu. Pas de vous, pardon. Cela, il faut bien que je lise, hein. Il faut que je lise bien cela. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de qui? De Dieu le Père. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes quoi? Son ouvrage. Dieu le Père. Nous sommes l'œuvre du Père. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu, encore Dieu le Père ici en vue, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez la centralité de Dieu le Père dans notre salut, et tout cela pour démontrer sa gloire. Il y a des gens qui ont des idées que Dieu le Père est très méchant, un vieux monsieur là qui est très méchant, et qui a le petit Jésus qui vient pour adoucir un peu son Père. Ça, c'est pas l'image biblique. L'image biblique est que Dieu, car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le salut vient de Dieu le Père. Il est l'initiateur de ce salut. Alors, continuons un peu la lecture. Passons au chapitre 3, qui nous donne ici la révélation du but ultime de Dieu le Père dans toute cette activité, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Et vous allez voir que la raison soulignée est de faire connaître la sagesse infinie de Dieu le Père, c'est-à-dire sa gloire. Regardez le verset 7, Éphésiens 3, 7. Donc, j'ai été fait ministre. Bon, on peut dire, mais qui t'a fait ministre ou apôtre? C'était pas notre apôtre, c'était selon le don de la grâce de Dieu. Il parle de Dieu le Père ici, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul parle ici, verset 8, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, le Père ici, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, ou je préfère, afin que, et notez le verset 10 maintenant, c'est très important comme verset. Est-ce que vous avez réfléchi à ce verset? C'est un verset surprenant, je crois. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Alors, on pose juste un instant, c'est qui ça? D'ailleurs, dans la Bible, nous voyons que ça parle des anges. Okay, donc, il a fait connaître ce mystère de salut afin que les anges connaissent quelque chose. Mais d'abord, comment il dit? Qu'ils connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est-à-dire en regardant l'Église de Saint-Denis, l'Église de Grand-Roissy, toutes ces églises et l'Église universelle de Jésus-Christ, que les anges connaissent quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Et tout cela n'est pas une pensée après coup. Notez ce que dit le verset 11. C'est selon le dessein éternel qu'il, l'œuvre du Père, a mise à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, Christ, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, dans ce verset, nous avons une fenêtre ouverte sur le dessein de Dieu. Dieu fait connaître aux anges sa gloire à travers l'Église. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? On pourrait penser que les anges savent déjà tout ce qu'il y a à savoir de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ils sont des créatures comme nous. Ils sont finis comme nous. Ils sont limités comme nous le sommes. Et Dieu veut révéler sa pensée. Il veut révéler son caractère. Il veut révéler ses attributs. Cette sagesse infiniment variée, comme il dit, aux anges. Tout comme il veut révéler sa gloire à nous les humains. Et il révèle sa gloire à nous les humains dans le salut qu'il nous donne, mais il révèle sa gloire aux anges par le salut qu'il nous donne. C'est-à-dire en disant, anges, regardez l'Église, regardez ces hommes, ces femmes, ces enfants que j'ai sauvés, que je transforme, avec qui je montre ma patience jour après jour, année après année. Et les anges voient en nous un spectacle de la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que le monde est un spectacle de la gloire de Dieu. Pour les anges, c'est nous qui sommes le spectacle de la gloire, de la sagesse, de l'amour, de la grâce de Dieu en sauvant des êtres humains comme nous. L'Église est un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Elle est la scène sur laquelle Dieu pourvoit aux créatures célestes des démonstrations de sa sagesse, de son pouvoir et de sa gloire. Et où est-ce que tout cela va? Ben, regardez la fin de ce chapitre, Éphésiens 3, 20 et 21. Or, à celui, c'est qui le celui? Ben, on sait que c'est Dieu le Père par ce qu'il dit par la suite. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire où? Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Et dites-le avec moi, amen. À lui, Dieu le Père, soit la gloire. Et puis, pour terminer, quelques versets en Apocalypse, pour voir dans l'avenir. Ceci aussi m'ont été suggérés par cette même amie. Et cela nous lance donc dans l'avenir. Et nous avons vu que ce que Dieu fait dans l'Église, c'est pour que les anges le glorifient, c'est pour que nous le glorifions. Et là, nous allons voir les deux ensemble pour glorifier Dieu. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors je vous pose la question, commencez à réfléchir, c'est qui est sur ce trône? Quelqu'un m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps et je n'avais pas la réponse toute prête. Alors, vous serez prêts la prochaine fois. C'est qui est assis, verset 2, à la fin du verset 2, sur ce trône? Eh bien, lisez le verset 3. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône. » Donc, il parle à celui qui est assis sur le trône. « À celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant à celui qui est assis sur le trône. » Verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, de qui parle-t-il? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Regardez, continuons à lire, en Apocalypse 5, « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Donc on parle encore du même personnage, du même événement même. mais celui qui est assis sur le trône. Il a un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre qui est d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais vers ces quatre beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. » Vous savez qui c'est ? Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Verset 6, notez cela. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint, c'est Jésus, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors je repose la question, qui est celui qui est assis sur le trône? C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Et c'est Dieu le Fils qui vient et qui prend le rouleau de sa main. Mais notez ce qui se passe maintenant, verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Avant, c'était devant le trône, maintenant c'est devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant... Tu, maintenant il parle, avant il parlait à celui assis sur le trône, maintenant il parle à l'agneau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car toi tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. C'est qui Dieu? C'est celui qui est assis sur le trône. Christ a tout fait cela pour son Père. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour qui? Pour notre Dieu, c'est-à-dire celui assis sur le trône, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de milliers et de milliers, et ils disent d'une voix forte, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qu'il disait, notez ceci, à celui qui est assis sur le trône, c'est qui? Et à l'agneau, c'est qui? Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient quoi? Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Vous voyez la gloire qu'ils reçoivent tous les deux. Et juste pour noter qui est celui qui est en train, qui sont en train d'adorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau, le Père et le Fils. Bien, nous voyons que c'est les quatre êtres vivants, ça doit être des êtres angéliques, des anges. Il y a les 24 vieillards, qui est probablement, je pense, les représentants des peuples de Dieu, 12 tribus, 12 apôtres, donc tout le peuple uni de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Verset 11 dit qu'il y a beaucoup d'anges. Verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Et pourquoi louent-ils? Regardez Apocalypse 5, 9, la deuxième partie. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père et ils régneront sur la terre. C'est-à-dire, ils louent le Père et le Fils pour la rédemption qu'ils voient. Les anges voient des personnes de toute tribu, de toute langue, et ils sont poussés au ciel à dire « Louange à Dieu d'avoir sauvé tout ce groupe !» Et nous louons le Seigneur à cause de ce qu'il a fait en nous. Les anges louent le Seigneur pour ce qu'ils l'ont vu faire dans l'Église, comme nous avons vu en Éphésiens 3. Alors regardez rapidement Apocalypse 7. C'est tellement beau, il faut l'apprécier en le regardant. Apocalypse 7, verset 9. « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. » Alors nous avons vu qu'il y avait ces anges, ces êtres, etc. Mais maintenant, il y a une foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône. Notez ceci, ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Donc les deux sont encore devant eux. Ils sont revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Vous voyez, c'est pas que les anges, c'est maintenant eux, verset 10. Et ils crient d'une voix forte en disant, le salut est, notez ceci, à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant Dieu et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Dites-le avec moi. Amen. Vous voyez au ciel, on est tous là ensemble avec ces anges en train de glorifier le Père, de glorifier le Fils. Et puis Apocalypse 19. Regardez Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, vous avez dit Amen, dites-le non avec moi, Alléluia, qui veut dire louer l'Éternel. Merci, je l'apprécie. Le salut, la gloire et la puissance sont à qui? À notre Dieu. Regardez le verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et ils adorèrent qui? Dieu assis sur le trône en disant, dites-le avec moi, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant, allez avec moi, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est tout puissant. Il est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Voici où va l'histoire de l'Église. Voici pourquoi Dieu a fait que le salut soit par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul, sur la base de sa parole seul, pour que tout ça soit à sa gloire seule. Le but de Dieu dans le salut de l'homme ne se trouve finalement pas en nous. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Nous avons raison de remercier le Seigneur pour ce fait. Parce que c'est à cause de ce fait, c'est-à-dire le fait que Dieu nous sauve, son dessein ultime et pour sa propre gloire, c'est ce fait qui rend notre salut garanti et sûr et certain. Parce que c'est plus grand que nous, c'est la détermination de Dieu le Père et cela ne peut échouer si vous êtes en Jésus-Christ. Soli Deo Gloria devient la base de notre assurance de salut. C'est la garantie de notre sécurité en Christ, si vous êtes en Christ. C'est cela l'enjeu. Et je vous pose une question, Satan comprend-il les enjeux de salut? Ne cherchez pas, je l'ai ici, mais notez ce qui est dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça, on le voit partout, n'est-ce pas? Mais quelle est sa motivation? Est-ce que c'est simplement parce que Satan veut nous voir souffrir? Est-ce que vraiment nous sommes au centre de ce qu'il fait pour nous damner? Non, là encore, nous ne sommes pas la raison. La raison d'être principale, il nous aveugle afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça revient à Dieu. Il ne veut pas qu'on voit la gloire de Dieu en Jésus-Christ révélée dans notre salut. Il déteste cela. Il veut nous aveugler pour ne pas voir cela. Et c'est pour ça qu'il nous prive de voir l'évangile. Dieu, vous savez, mais dans l'autre sens, si on parle de Dieu, Dieu ne veut pas seulement vous sauver, il veut que vous sachiez qu'il vous a sauvé. Il veut que vous sachiez maintenant. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que si on est sauvé par surprise, ah, il m'a sauvé, tiens, on ne sait pas pourquoi, qui, comment. On ne sait pas à qui rendre gloire. Et je veux, et là je crois vraiment que je termine avec ça, mais je veux vous montrer comment votre assurance de salut est basée sur la gloire de Dieu à venir. Et ça c'est le dernier texte, mais c'est pour revenir à Éphésiens 2, nous avons déjà vu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se doute de son salut? Qui se demande, je ne sais pas si Dieu va vraiment me garder. Je suis en Christ, mais est-ce que vraiment il va me garder jusqu'en éternité? Je veux que vous voyez que votre sécurité en Christ est liée avec la gloire de Dieu. La solideo gloria devient la raison de votre assurance. Éphésiens 2, verset 4, dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, voilà ce qu'il fait pour nous. C'est, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Notez le verset 7. « Afin de, et voici la motivation de notre salut, afin de, quoi ? Montrer. » Alors, une autre question. « Quand ? » Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous avez compris ce qu'il dit? Dieu nous sauve dans cette vie avec un but précis de montrer dans la vie à venir sa grâce, et la richesse et sa gloire, la richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa grâce dans la vie à venir. Donc, si vous avez été sauvé par Christ, si vous êtes en Christ, c'est que Dieu a un but dans votre salut. Dieu a un but éternel attaché à ton salut, et ce but ne sera pas réalisé avant qu'on arrive dans les siècles à venir. Ça, c'est l'assurance de mon salut. Dieu m'a sauvé pour faire quelque chose à l'avenir. Je suis sûr. Qui va pas laisser tomber le but et la raison pour laquelle il m'a sauvé. C'est quoi la raison? C'est sa gloire. C'est pouvoir nous démontrer sa gloire. Nous sommes sauvés à la gloire de Dieu seul. Soli Deo Gloria. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous parlons des choses qui nous dépassent dans le temps et dans l'infinie richesse de la grâce qui est démontrée. Mais nous savons que nous sommes créés pour te glorifier et que notre joie suprême sera de le faire pendant toute l'éternité. car il n'y a rien de mieux que tu puisses nous montrer que ta propre gloire. Et donc si tu nous aimes vraiment, c'est que tu nous montres la plus grande beauté, qui est toi-même et ta gloire. Et nous voulons célébrer ta gloire maintenant comme nous le célébrons un jour avec les anges. Que tu sauves ceux qui ne sont pas encore en Christ. Qu'ils réalisent que par leur perdition, ils glorifieront aussi Dieu le Père pour sa justice. Mais que s'ils viennent à Christ, ils pourront le glorifier à jamais pour sa grâce. Sauve-nous, prions, pour ta gloire seule. Amen.